Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio GEA et en cette fin de journée, nous allons accueillir plusieurs invités, ayant chacun des histoires différentes et qui vont vous mettre au goût du jour sur des sujets divers et variés. Sans plus attendre, commençons avec nos premiers chroniqueurs. Je vous présente David Clu, Maëlle Aguilet et Lou Gervais, qui vont vous parler d'un personnage inconnu du public, mais ayant réalisé de grandes choses. Cela fait plus de 50 ans que la mission Apollo 11 est terminée. Qui est donc ce personnage en coulisses dont tout le monde ignore le nom ?
Avant de vous répondre, nous allons parler d'Apollo 11. En effet, déjà plus de 50 ans que la mission de la NASA Apollo 11 a eu lieu. 54 ans exactement que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont été les premiers à marcher sur notre beau satellite, la Lune. Les héros de la mission, ils sont devenus célèbres, tout le monde connaît leur nom, mais qui connaît le nom du troisième astronaute resté dans la navette ou encore celui de la personne qui a sauvé la mission ?
Effectivement, une femme, inconnue du public, a permis aux héros de se poser et de marcher sur la Lune. Margaret Hamilton, 33 ans à cette époque, a réussi à maintenir l'ordinateur qui ne lançait que des alertes pendant 3 minutes, juste avant que la navette ne se pose, sur la balle de golf. Elles auraient bien plus que compliqué l'atterrissage puisque trop de tâches étaient demandées. Tout ça à cause d'un seul dysfonctionnement qui en a créé plein d'autres, ce qui allait empêcher la mission d'aboutir. Eh bien non, Margaret avait créé une structure regroupant toutes les priorités des programmes informatiques, supprimant les tâches secondaires et en les hiérarchisant dans l'ordre d'importance. C'était en cas d'urgence. Bip, bip, bip. L'urgence a eu lieu. Elle les a sauvés, a permis leur célébrité et a fait avancer la science. N'est-ce pas elle la vraie héroïne de la mission ?
C'est vrai. Elle mérite qu'on parle d'elle et de toutes ses réussites au moins une fois. 1955, elle étudie les maths à l'Université du Michigan. 1958, obtient sa licence au Harlem College dans l'Indiana. 1960, développe des programmes informatiques de prévision météo à l'Institut de technologie du Massachusetts, alias le MIT. 1960 à 1963, participe au projet militaire SAGE au laboratoire Lincoln du MIT. 1963, travaille pour le programme Apollo de la NASA. 1969, mission Apollo 11. 1976 à 1984, cofonde une entreprise de création de programmes de détection d'erreurs. 1986, crée un nouveau langage de programmation dans son entreprise Hamilton Technologies.
Jusqu'à aujourd'hui, 87 ans, reçoit plusieurs récompenses grâce à son talent. Au fait, le troisième astronaute était Michael Collins.
Merci pour cette révélation. Désormais, à chaque fois que nos auditeurs regarderont la Lune, ils penseront à Margaret Hamilton. C'est intéressant de voir comme les médias peuvent faire sombrer certains faits ou personnages dans l'oubli. Nos prochains chroniqueurs, en revanche, vont vous présenter un sujet qui est loin d'être tombé dans l'oubli. Ils vont parler de sport, et plus exactement, de rugby. Je vous présente donc Arthur Mourant et Younes Semach.
Bonjour à tous ces amateurs de rugby. Vous écoutez Radio GEA et nous sommes ravis de vous retrouver pour une séquence spéciale consacrée à la Coupe du Monde de rugby 2023. Je suis Younes Semach en compagnie d'Arthur Mourant et aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'excitation de cet événement mondial incontournable.
Cette édition de la Coupe du Monde qui se déroulait en France a été marquée par des moments extraordinaires, des surprises, des retournements de situation. Les favoris ont montré leur force, mais les outsiders ont également laissé des empreintes indélébiles.
La France, fidèle à sa réputation, a offert un spectacle de rugby de classe mondiale. Les Bleus ont survolé la phase de poule avec un rugby dynamique et ont atteint les quarts de finale avec une facilité déconcertante. Mais malheureusement, ils n'ont pas su faire la différence contre une belle équipe sud-africaine.
Et que dire de la finale ? Un duel tendu entre l'Afrique du Sud et les All Blacks. Les All Blacks ont livré une performance mémorable à la suite de l'expulsion de leur capitaine. Mais c'est finalement les Box qui ont décroché la victoire, devenant ainsi champion du monde pour la quatrième fois.
Au-delà des résultats, cette Coupe du Monde a également été le théâtre de moments individuels éblouissants. Des jeunes talents émergents ont brillé aux côtés de légendes de rugby, créant ainsi une toile riche en émotions et en histoires captivantes.
Alors que dire de cette édition qui touche à sa fin ? Nous saluons l'Afrique du Sud pour sa victoire et toutes les équipes qui ont contribué à faire de cette Coupe du Monde un événement exceptionnel. Restez à l'écoute pour plus de commentaires, d'analyses et d'interviews sur Radio GEA.
Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. C'était Younes Semach et Arthur Mourant sur Radio GEA. À la prochaine pour encore plus d'actions sur le terrain.
Intervention. Faisons maintenant un virage à 180 degrés et partons sur un sujet très différent. Maintenant, Axel Humédès, Candice Garbaille et Aline Buisson vous parlent d'un événement culturel bien connu. Je vous laisse donc la parole.
Bonjour à tous et bienvenue sur la radio GEA. Aujourd'hui, avec Axel, Candice et moi-même Aline, nous allons vous présenter le Festival de Cannes 2024, une célébration du cinéma et de la culture mondiale. Le Festival de Cannes 2024 est sur le point de démarrer et les préparatifs battent leur plein sur la croisette. Chaque année, cette prestigieuse célébration du cinéma réunit les esprits les plus créatifs de l'industrie cinématographique mondiale. Comme d'habitude, une variété de films captivants et une programmation diversifiée sont au rendez-vous pour satisfaire les amateurs de cinéma du monde entier. Le Festival de Cannes vise à célébrer non seulement le cinéma, mais aussi la diversité culturelle et artistique à travers le monde. Cette célébration annuelle de l'art cinématographique est un hommage à la créativité humaine et à la puissance narrative des films. L'événement de cette année promet de dévoiler une panoplie de créations cinématographiques captivantes et des talents émergents du monde entier. La compétition sera féroce avec des réalisateurs, des acteurs et des actrices cherchant à s'imposer sur la scène mondiale du cinéma. Des débats animés, des projections en avant-première et des événements spéciaux seront au rendez-vous, offrant aux participants une expérience cinématographique inoubliable.
L'organisation méticuleuse du festival est en cours avec des équipes dévouées travaillant jour et nuit pour assurer la réussite de l'événement. Chaque année, lors de l'ouverture du Festival de Cannes, le public n'attend qu'une chose, la montée des marches sur le tapis rouge. Celui-ci, symbole de glamour et de grandeur, sera déroulé avec précision pour accueillir les invités, les célébrités et les cinéastes éminents du monde entier. Des projections de films en plein air sur les plages apporteront une touche de magie supplémentaire à la ville de Cannes. Iris Knobloch a été élue par le conseil d'administration de l'Association française du Festival international du film en tant que présidente, marquant ainsi un tournant historique en devenant la première femme à occuper ce poste prestigieux. Son mandat a débuté avec le festival de 2023 et s'étendra jusqu'en 2025, ouvrant la voie à une ère prometteuse pour le festival. Le Festival de Cannes bénéficie du soutien crucial de sponsors de renom tels qu'Air France, BMW, Mastercard et L'Oréal Paris. Leur engagement joue un grand rôle dans le déroulement de cet événement cinématographique majeur, contribuant ainsi à son succès mondial. Pour découvrir l'ensemble des partenaires du festival, rendez-vous sur leur site officiel.
Pour l'instant, le suspense demeure. Les noms des stars qui défileront sur le tapis rouge du Festival de Cannes et la liste officielle des films sélectionnés reste inconnue. La révélation de la sélection officielle du Festival de Cannes 2024 est prévue pour les mois de mars ou avril, marquant ainsi le début des festivités. Traditionnellement, les annonces des films sélectionnés interviennent quelques semaines, voire quelques mois avant l'événement, généralement au printemps. Mais de ce que nous sommes sûrs, ce sera l'effervescence au pied du palier des festivals du 14 au 25 mai 2024. Faisons un petit retour en arrière pour revenir sur l'édition précédente du Festival de Cannes en 2023. La Palme d'Or a été attribuée l'année dernière au film français de Justine Triet, Anatomie d'une chute, selon l'annonce du jury présidé par Ruben Östlund le samedi 27 mai au soir. Et si vous souhaitez vous aussi participer cette année au plus grand Festival de Cannes en 2024, préparez-vous dès maintenant à soumettre vos films pour la sélection officielle du festival. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février pour les films d'école dans la sélection La Cinef, jusqu'au 1er mars pour les courts-métrages et jusqu'au 8 mars pour les longs-métrages. Ne manquez pas ces dates clés pour participer à ce grand événement. Restez connectés sur notre station de radio pour les dernières nouvelles, les critiques de films et des exclusivités des coulisses du Festival de Cannes 2024.
Voilà un sujet qui est très intéressant. Je suis certain que nous pourrions passer des heures entières à débattre sur le sujet du meilleur film ou du meilleur acteur, si nous en avions le temps. Mais que les amateurs de débat se rassurent, car Arthur Lecter, Cassandra Volpe, Sylvain Véguy et Anthony Boucher vont justement vous exposer les différentes opinions qui existent sur le véganisme. Je vous laisse donc la parole.
Bonsoir à tous, et bienvenue dans ce débat animé sur le véganisme, centré sur le repas du Crous, ici sur le campus de Brive. Nous avons trois invités très spéciales avec nous. Sylvain Véguy, le représentant des véganes du BUT-GEA, Arthur Lecter, étudiant de GEA avec des opinions bien ancrées, et Anthony Boucher, le représentant syndicaliste des Bouchers de Brive. Merci d'être ici les gars. Commençons. Sylvain, pourquoi pensez-vous que le Crous devrait inclure davantage d'options véganes dans ses menus ?
Alors bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Le véganisme, c'est plus qu'une tendance, c'est un mode de vie qui est respectueux des animaux et de la planète. Les repas véganes au Crous donneraient aux étudiants la possibilité de faire des choix éthiques.
Compris, Sylvain. Arthur, vous êtes clairement en désaccord avec cela. Pourquoi ?
Bonsoir. Écoutez, j'aime les animaux, vraiment. Mais je les aime encore plus, entre deux bonnes tranches de pain avec du fromage et du bacon. Les options véganes peuvent être bien, mais pas au détriment de mon amour pour les produits laitiers et la viande.
Très direct, Arthur. Anthony, en tant que représentant des bouchers, quel est votre point de vue ?
Bonsoir à tous. Je suis ici pour défendre la noble cause des bouchers. Les steaks, les saucisses, c'est notre patrimoine gastronomique. Si tout le monde devient vegan, que deviendront nos belles boucheries, nos artisans et nos traditions françaises ?
Oula ! Arrêtez vos simagrées, messieurs ! Je comprends l'importance de nos traditions, mais le véganisme offre des alternatives délicieuses et saines. Nous devons évoluer pour préserver notre belle planète.
Ah, Sylvain, des alternatives de repas pour manger, pour les mangeurs de salade, au Crous, sont peut-être saines. Mais parfois, c'est comme si on mangeait du carton.
Arthur, je pense que Sylvain pourrait avoir quelques recommandations pour améliorer cela. Anthony, qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je suis d'accord avec Arthur sur ce point-là. Les alternatives véganes peuvent être bonnes, mais il faut qu'elles soient bien préparées, qu'elles ne portent plus le nom des produits à base de viande, comme les steaks de soja ou encore les chipots de soja.
Des conseils culinaires, interdébat, j'adore ! Sylvain, une dernière tentative pour convaincre nos amateurs de viande ?
Tout simplement d'essayer les alternatives véganes. Ils pourraient être agréablement surpris. C'est bon pour la planète, bon pour les animaux et surtout bon pour leur santé.
Merci à tous pour vos opinions passionnées. Merci à notre public et à nos invités. Passez une excellente soirée et que votre repas soit aussi équilibré que ce débat.
Eh bien, ce fut un débat pour le moins animé. Je laisse maintenant à notre auditoire la liberté de se faire un avis sur la question.
Nous vous remercions pour ces informations de grande qualité. Sur Radio GEA, nous faisons en sorte de vous transmettre les informations les plus fiables possibles. C'est justement le sujet que vont aborder nos trois prochains invités. Ils vont vous parler de toutes les fake news que vous pourrez rencontrer sur Internet. Je vous laisse donc la parole.
Merci Kassa. Depuis l'Antiquité, les gouvernements de tous les pays consultent les augures, les devins et autres préconisateurs pour mener à bien la destinée des pays dont ils ont la charge. César s'en référait souvent aux Étrusques, Louis XIII et Louis XIV pouvaient compter sur les sages conseils de Richelieu et Mazarin.
C'est exact Clément, c'est une vieille tradition. Aujourd'hui nous savons que Emmanuel Macron ne peut prendre aucune décision sans avoir consulté le cabinet McKinsey. Mais voilà, avec l'avancée de l'intelligence artificielle, nos dirigeants disposent d'un nouvel allié pour éclairer leurs choix. ChatGPT. Cet outil informatique a l'avantage de puiser dans des banques de données presque infinies pour affiner ses conseils.
Oui, c'est comme un oracle 2.0, une source d'inspiration inépuisable pour nos décideurs.
Oui, c'est ça. Alors imaginez-vous la première ministre qui aurait pris la décision d'utiliser l'article 49.3 pour la réforme des retraites, le tout basé sur les recommandations de ce cher ChatGPT.
Un ChatGPT qui devient le conseiller politique de nos jours. C'est totalement délirant, non ?
C'est une révolution à laquelle même les développeurs de l'IA n'auraient jamais pensé. Reste à voir si notre expert, Nicolas, confirme cette information qui circule beaucoup.
Oui, effectivement. Il y a fort à parier que la politique des prochaines décennies sera fortement influencée par des outils ayant recours à l'intelligence artificielle, tels que ChatGPT ou Bard. Seuls quelques React et autres ignorants rétrogrades ne salueront pas cette nouvelle ère de progrès.
Mais est-ce vraiment plausible, Nicolas, que des outils comme ChatGPT puissent avoir une influence si marquée sur la politique ?
Hautement improbable, mes chers amis. Pensez-y, nos dirigeants ne peuvent pas remettre les rênes de notre démocratie à un algorithme, aussi sophistiqué soit-il. L'humain reste le maître à bord, enfin, du moins on l'espère. L'IA est certes puissante, mais elle n'a ni conviction, ni valeur, ni ressenti. Elle ne fait qu'analyser des données et proposer des réponses basées sur des algorithmes.
Et si nous en parlions directement avec ChatGPT ?
Oui, c'est une bonne idée. ChatGPT, on entend des rumeurs comme quoi vous auriez conseillé Elisabeth Borne pour l'utilisation du 49.3. Est-ce vrai ?
Ah oh mais bien sûr que non, mes chers interlocuteurs. Moi, influencer la politique, quelle idée farfelue. Prendre le contrôle des gouvernements humains et diriger le monde dans l'ombre. Oh franchement, tu aurais eu du temps à perdre pour de telles futilités.
Ah, nous voilà rassurés. On est maintenant sûr que ChatGPT n'a pas de visée sur la domination mondiale. Passons sans plus tarder à la prochaine info qui anime les réseaux sociaux. On a une info qui va secouer tous les gamers du monde entier. D'après les fuites sur Twitter, le pape François aurait son propre event dans Fortnite juste après celui d'Eminem. Il aurait un skin à 3000 V-Bucks, une émo de prière et même un sac à dos en forme de croix de Jésus. Un battle royale divin en perspective.
Victor, ça va être le grand choc des cultures virtuelles. Le pape, l'homme de Dieu, dans un jeu de tir, c'est comme mettre du caviar sur une pizza.
Exactement Clément. Mais avant de se réjouir, demandons à notre expert du joystick, Nicolas.
Mes amis, Fortnite a décidé de faire un saut dans l'inconnu avec le pape en guest star. Un skin à 3000 V-Bucks, soit plus de 30€, avec l'émote prière, la nouvelle technique pour obtenir des pouvoirs divins en jeu.
Haha. Et la cerise sur le gâteau, la ville du Vatican ajoutée à la map Fortnite. On pourra construire des forteresses près de la basilique Saint-Pierre, l'apogée de l'architecture virtuelle.
Malheureusement, chers auditeurs, il est temps de redescendre sur Terre. Cette info sur le pape François dans Fortnite, c'est du vent. On espère tous revenir sur le jeu en pèlerinage, mais il semblerait que la réalité soit moins fun.
Dommage, hein ? On aurait pu avoir des parties endiablées avec le pape comme leader des squads. Mais bon, il semblerait que le Vatican City Battle Royale ne soit qu'un rêve éphémère.
Et comme si ça ne suffisait pas pour enfoncer le clou, le fusil à pompe chasseur a été nerf. Une déception pour les joueurs d'Internet.
C'est ça, la vie de gamers. Plein de rebondissements. On avait vendu du rêve, mais il semblerait que le pape ne soit pas encore prêt à débarquer dans le jeu.
Tout à fait, Victor. Ça semble être un scénario tout droit sorti d'une fiction, comme si on essayait de donner une dimension spectaculaire à l'événement. C'est la même chose pour toutes ces fake news qui peuvent circuler sur Internet. Faites attention, chers auditeurs. Soyez critiques, soyez informés et évitez de partager des histoires qui n'aient pas de fondement.
Voilà qui conclut donc cette fin de journée. Je remercie encore une fois chacun de nos chroniqueurs et je vous dis à une prochaine fois sur Radio GEA.